Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il faut croire de foi catholique que le Christ Jésus a été donné aux hommes, non seulement comme rédempteur, en qui ils mettent leur confiance, mais en même temps comme législateur à qui ils obéissent. Ces paroles sont des paroles du pape Pie XI dans son encyclique Quas Primas, qui institue cette fête du Christ roi, donc à ce dernier dimanche d'octobre. Et ces paroles donc sont une définition. Vous le savez, le pape peut définir à n'importe quel moment, à partir du moment où il parle à l'Église universelle et qu'il dit ce qu'il faut croire ou ce qu'il faut faire. Donc nous le voyons que dans un bon nombre d'encycliques, il y a effectivement des définitions et que, contrairement à ce que disent certains, notamment la Fraternité Saint-Pie X, pour ne pas la citer, les dernières définitions de l'Église, c'est pas uniquement l'Immaculée Conception par Pie IX et l'Assomption par le pape Pie XII. Pas du tout. D'ailleurs, entre-temps, déjà, il y a le Concile Vatican I. Donc dire que c'est pas des définitions de Concile Vatican I, c'est quand même extrêmement problématique. Entre-temps, il y a des grandes encycliques de Pie IX aussi, Quanta Cura, de Léon XIII, Libertas et autres, de Saint Pie X, bien sûr, Pascendi, condamnation du moderniste. Et puis ici, bien évidemment, le pape Pie XI qui définit bien sûr la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ et qui définit ici d'une manière particulière, puisqu'il faut croire, credendum est, de foi catholique, donc c'est la formule de définition, il faut croire de foi catholique que le Christ Jésus a été donné aux hommes, non seulement comme rédempteur, en qui ils mettent leur confiance, mais en même temps comme législateur à qui ils obéissent. C'est très intéressant puisque ça correspond exactement au parallèle que nous retrouvons dans l'épître de saint Paul que nous venons de lire. Eri puit nos de potestate tenebrarum, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et il nous a transféré transtulit in regnum, donc par l'effusion de son sang. Nous avons ici établi deux éléments de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, il est rédempteur et ensuite, il est législateur. Il est rédempteur, il nous a sorti, éripuit, délivré de la puissance des ténèbres par son sang. Le mystère de la rédemption, qui est l'un des trois mystères fondamentaux de notre sainte religion, c'est justement le mystère de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous rachète de l'esclavage du péché, de l'esclavage du démon par son sang, par sa mort sur la croix, évidemment par sa résurrection, puisque pour nous délivrer pleinement de la mort, notamment de la mort du péché, et il ne suffit pas qu'il meure sur la croix, il faut qu'il vainque la mort par sa résurrection. Et c'est ce que fait effectivement notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est en cela qu'il est notre rédempteur. Donc par son sang, par ce mystère de la rédemption, il a acquis les âmes qui étaient tenues par le péché. Je vous le rappelais la semaine dernière, notamment à l'occasion aussi d'un baptême, les petits-enfants, les petits bébés, aussi mignons soient-ils extérieurement, sont sous l'emprise du démon. L'apôtre saint Paul nous le dit très clairement, et c'est la foi de la Sainte Église. Et c'est pour cette raison qu'on ne plaisante pas avec le sacrement du baptême. C'est pour cette raison qu'on ne le retarde pas de façon trop importante, comme malheureusement C'est souvent le cas aujourd'hui, pour X raisons qui ne sont pas des raisons surnaturelles, qui ne tiennent pas compte de ce péché originel qui affecte les âmes, tant qu'elles sont sous cette emprise. Malheureusement, même après le baptême, nous pouvons revenir sous l'emprise du démon. Cela nous montre que notre Seigneur Jésus-Christ, en nous rachetant, il nous donne une possibilité. Il nous donne toutes les grâces nécessaires pour sortir de cet esclavage. Mais ceux qui ne veulent pas en sortir, eh bien, ils n'en sortiront pas. Ceux qui ne veulent pas de notre Seigneur Jésus-Christ comme roi, ils ne l'auront pas comme roi. C'est ce que crie d'ailleurs la foule scélérate, comme nous le chantons dans l'hymne des Vêpres d'aujourd'hui. Nous ne voulons pas, en reprenant d'ailleurs les paroles des Juifs, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Parole terrible, évidemment, ce rejet de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette volonté, finalement, de rester sous l'emprise du démon, sous l'emprise du péché. Nous, au contraire, nous croyons de foi catholique que Jésus-Christ nous a été donné. Alors, on pourrait aussi s'attarder sur cette merveilleuse expression du pape Pie XI. Jésus-Christ nous a été donné comme rédempteur. Ça montre les relations dans la Sainte Trinité et surtout cette relation entre le Père et le Fils. Le Père, Dieu le Père, qui nous donne son Fils. Il nous le donne dans le mystère de l'incarnation que nous préparerons bientôt pendant le temps de l'Avent. Il nous le donne dans le mystère de la rédemption. Il l'offre, il nous le donne comme rédempteur. C'est extrêmement important aussi de comprendre et d'admirer cette bonté de la part de Dieu qui se donne, le Fils se donne et le Père nous donne son propre Fils. La réponse que nous devons donner à cela, elle nous est exprimée par le pape Pie XI. Il nous a donné un rédempteur pour que les hommes mettent en lui leur confiance. Leur confiance, leur foi. Alors il ne s'agit pas de la foi-confiance protestante. Cette foi-confiance qui complètement aveugle et qui ne correspond pas à une réalité, à une rédemption réelle. Parce que les protestants ne croient pas au mystère de la rédemption. Il faut bien voir cette réalité. Ils n'y croient pas. Ils ne croient pas au mystère de la rédemption parce qu'ils ne croient pas que Jésus-Christ nous rachète vraiment du péché. Luther, Calvin et autres, Melanchthon et compagnie, ils ne croient pas qu'on ait racheté du péché. Ils croient simplement que Jésus, Dieu, se voile la face, ne veut pas, ne nous impute pas nos péchés. Et ça, c'est pas le mystère de la rédemption. Le mystère de la rédemption, c'est que Jésus nous a vraiment délivrés du péché, donné les moyens d'en sortir à ceux qui veulent en sortir. Vous voyez l'énorme différence. Et donc, les protestants n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas la foi dans le Rédempteur. Ils ont beau proclamer « Je crois en Jésus, mon Sauveur ». En fait, ils n'y croient pas. Et ils ont juste une confiance que Jésus, que Dieu ne leur impute pas leurs péchés. C'est tout. Et c'est cette confiance qui, pour eux, les sauve. Donc, peu importe les péchés que nous faisons pour le protestantisme, c'est ce que disait Luther, péchez fortement, beaucoup, mais croyez encore plus fortement. À partir du moment où vous croyez que vous êtes sauvé, vous êtes sauvé. C'est très volontariste. Peu importe ce que vous faites, vous pouvez être la pourriture, la pire du monde. Vous pouvez être le meurtrier, le pire du monde. Vous pouvez faire n'importe quoi, faire tous les péchés que vous voulez. Vous êtes sauvé. Parce que vous croyez que Jésus est votre sauveur. Donc vous voyez après les conséquences, bien sûr, dans la société. Et la société actuelle dans laquelle nous vivons est extrêmement tributaire de cette mentalité protestante où chacun peut penser ce qu'il veut, faire ce qu'il veut, etc. De toute façon, à partir du moment où on croit qu'on est sauvé, on est sauvé. C'est faux. On est sauvé parce que Jésus-Christ nous a rachetés par son sang, mais c'est à nous d'adhérer par la foi et par la confiance, c'est-à-dire, c'est pas une confiance inactive, c'est une confiance active, c'est-à-dire prendre la main que Jésus nous tend, croire véritablement en lui. Et ça implique la deuxième partie qui est exprimée par le pape Pie XI. Cette deuxième partie dans laquelle il nous dit qu'il faut croire que non seulement le Christ est notre Rédempteur en qui nous pouvons avoir confiance, c'est-à-dire nous savons par la foi qu'il a vraiment racheté nos péchés et que si nous lui demandons pardon de nos péchés, si nous prenons les moyens qu'il nous a donnés, à savoir les sacrements, le baptême, le sacrement de pénitence, la confession, eh bien nos péchés sont vraiment rachetés, sont vraiment effacés. Par le baptême, le péché originel est effacé, il n'existe plus. L'enfant, le bébé d'enfant de colère qu'il était, comme le dit saint Paul, il est transféré immédiatement dans le royaume de la grâce, dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Son âme est délivrée du péché et toute belle. De même, le pécheur qui vient se confesser, s'il fait les choses correctement, avec les trois éléments qui lui sont demandés, à savoir la contrition, le regret de ses péchés, la confession, pour que le prêtre vienne à connaissance de ses péchés pour les juger, et la satisfaction parce qu'il doit réparer ses péchés, si le pénitent apporte cela, eh bien ses péchés sont véritablement effacés. Son âme redevient pure, toute belle, après la confession, dès le moment où le prêtre donne le sacrement de pénitence. C'est la foi qui nous le dit. Et vous voyez que c'est quand même beaucoup plus consolant que la fausse foi protestante, où finalement c'est une confiance tellement volontariste qu'elle est facilement ébranlée, tandis que nous, elle se fonde vraiment sur la parole de notre Seigneur Jésus-Christ et sur la parole de l'Église pendant 1500 ans. Parce que pendant 1500 ans, avant Luther, on a toujours cru cela. Eh oui, il n'y a pas quelqu'un pour avoir nié de façon aussi brutale, aussi violente, cette vérité. Mais notre Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas présenté uniquement comme ce Rédempteur auquel on doit se fier. Il est également législateur. Il ne s'agit pas uniquement pour lui de nous sortir de la captivité, puisque nous sommes ici dans une métaphore, on va dire, guerrière, de conquête. On imagine qu'on était emprisonné, enfermé dans un royaume de ténèbres et dans une espèce de Mordor spirituel. Et notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous délivrer de cela. Mais c'est pas le tout. Il fonde un royaume. Et en fondant un royaume, Il est en même temps législateur. Pourquoi ? Eh bien parce que pour qu'un royaume fonctionne, pour que les âmes, les sujets puissent être conduits vers leur fin, il faut des règles, il faut des lois. Et notre Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas contenté de nous racheter par son sang. Avant cela, il nous a enseigné pendant les 3 années environ de sa vie publique. Il nous a enseigné cette loi nouvelle, la loi évangélique, qui ne vient pas détruire la loi précédente, la loi mosaïque, qui ne vient pas détruire évidemment la loi naturelle. Ce serait absurde, parce que notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu est autant l'auteur de la loi naturelle que de la loi mosaïque de Moïse, que de la loi évangélique. Il vient élever cette loi mosaïque. Eh bien, elle était là pour préparer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ et l'Église montrera que beaucoup d'éléments de cette loi deviennent absolument caduques avec l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, notre Seigneur est législateur. Ça veut dire qu'il fait des lois et ces lois nous permettent d'aller au ciel. On va pas établir un code de loi, bien évidemment. Hein, il va falloir reprendre les évangiles et surtout, la loi, eh bien, c'est cette loi de la charité, c'est-à-dire d'aimer Dieu par-dessus toute chose, comme il nous l'a demandé, et d'aimer le prochain comme soi-même, comme Jésus l'a précisé. Et il dit effectivement que toute la loi et les prophètes sont contenus dans ces commandements. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Pas l'un sans l'autre, n'est-ce pas? On reparlera probablement de ce texte de Monsieur Prévost, n'est-ce pas, sur ces questions de charité, où je serais étonné qu'il soit au point théologiquement au niveau de la foi. Pourquoi? Ben parce que on insiste sur un humanisme, sur l'amour du prochain, en oubliant sa relation à l'amour de Dieu. Alors que un amour du prochain qui n'est pas relié à l'amour de Dieu, qui n'implique pas derrière l'amour de Dieu, pour autant aussi bienveillant, humanitariste qu'il soit, il ne fait pas de mal, probablement, ça dépend, hein, parce que si on a une mauvaise vision du bien du prochain, on aura une mauvaise vision de la charité envers le prochain. On lui laissera tout faire. Par charité envers le prochain, on le laissera dans l'erreur. Par soi-disant charité envers le prochain, on le laissera dans l'immoralité, etc., etc., avec toute cette mentalité moderne d'inclusion de tout et de n'importe quoi, et surtout d'inclusion des péchés. Et ça, ce n'est pas de la charité, c'est le contraire de la charité. Ce n'est pas correspondre à ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ, délivré de l'emprise du péché pour nous transférer dans le royaume de sa grâce. Donc, il y a des lois à suivre pour aller au ciel. Il y a des exigences, un chemin à suivre pour aller au ciel. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a délivré de la puissance du démon, d'accord. Nous l'avons suivi, très bien. Il faut vivre en permanence sous son autorité. C'est pour ça qu'il est effectivement législateur. Il est législateur par sa loi évangélique et il est législateur en instituant son corps mystique qu'est l'Église. Ça aussi, c'est très important parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas voulu rester sur cette terre, rester ici-bas, parce que ce n'est pas sa place. Sa place est dans l'éternité, dans le ciel. Donc il n'est pas resté sur terre, et pour nous montrer que ce n'est pas notre place à nous. Bien sûr, c'est ce que va nous enseigner particulièrement cette fête de tous les saints de samedi. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est législateur par son Église aujourd'hui. C'est important, par conséquent, puisque, nous dit le pape Pie XI, Dieu nous a donné un Rédempteur en qui mettre notre confiance. Il nous a donné un législateur à qui il faut obéir. Si nous n'obéissons pas à notre Seigneur Jésus-Christ, si nous n'obéissons pas à son Église, alors nous nous retirons de son royaume. Nous crions également, comme la foule scélérate, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. À chaque fois que nous désobéissons gravement à ses commandements, nous crions cela par nos œuvres. Peut-être pas par notre voix, mais par nos œuvres. Et nous devons penser à cette réalité, mes chers frères. C'est ça, cette fête du Christ-Roi. La fête du Christ-Roi, ce n'est pas d'attendre une espèce de retour du Christ visiblement sur terre, comme certains qui écraseraient tous les ennemis de la foi. C'est pas du tout ce que cherche notre Seigneur Jésus-Christ. Absolument pas. Ce qu'il veut, c'est sauver les âmes. Et donc, tant que ce n'est pas la fin du monde, et la fin du monde, c'est la fin du monde, hein. C'est pas la fin du monde, l'apocalypse d'Hollywood, où il y a toujours un après. Il n'y a pas d'après la fin du monde. Le seul après la fin du monde, c'est le fait que chacun soit fixé définitivement dans l'état dans lequel il a été trouvé à sa mort. Savoir l'état de grâce, donc on est déjà dans le royaume de Dieu, ou l'état de péché mortel. Là, on est dans le royaume du démon. Il n'y a pas d'alternative. C'est ça que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qui seront à sa droite et d'autres à sa gauche. Il n'y a pas de centriste à la fin du monde. Il n'y a pas de nini. C'est pas possible. Soit on reconnaît notre Seigneur Jésus-Christ et dès ici-bas, on se transfère dans son royaume et on vit dans son royaume par notre obéissance, notamment évidemment à son évangile et aux lois de l'Église, parce que l'Église est là pour nous transmettre l'évangile, pour nous transmettre son essence et pour appliquer l'évangile au quotidien. Bien sûr, parce que notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas tout déterminer dans l'évangile. Il va donner les grandes lignes et il va laisser à son corps mystique, c'est-à-dire l'Église, d'abord à ses apôtres, sous l'influence de son esprit qu'il a envoyé à l'Église, l'Esprit Saint, il laisse cette législation plus particulière à son Église, et c'est pourquoi nous devons obéir filialement aux lois de l'Église, parce que obéir aux lois de l'Église, c'est obéir à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le reconnaître pour ce qu'il est, notre législateur, et donc le reconnaître véritablement pour notre roi. Voilà, mes bien chers frères, ce que c'est en réalité cette fête du Christ-Roi. Ce que c'est pour nous, effectivement, cette fête du Christ-Roi. La royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une réalité, c'est une vérité de foi. Il faut encore que nous correspondions à cette vérité de foi. Il faut que nous nous mettions dans cette économie du mystère de la rédemption. Que par les sacrements, notamment par le sacrement de pénitence et par les autres sacrements qui nous distribuent ces grâces qui découlent du mystère de la rédemption, il faut que nous nous mettions sous notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que nous le suivions pour sortir de cette puissance des ténèbres. Et il faut que nous restions ses sujets en obéissant à ses lois, en obéissant à sa loi évangélique, en obéissant aux lois de son corps mystique qu'est l'Église, qui ne peut faire aucune loi. Elle ne peut pas. L'Église ne peut pas faire de loi qui soit contre l'Évangile. C'est une vérité de foi aussi. Donc, s'il y avait des lois contre l'Évangile qui prétendraient émaner de l'Église, comme le nouveau code de droit canonique promulgué par Jean-Paul II en 1983, qui contient des choses qui sont contre la morale, contre la foi, directement, eh bien, on doit considérer par la foi que ça ne peut pas venir de l'Église. Ça aussi, c'est une conséquence. Donc aujourd'hui, si nous voulons être véritablement les sujets de notre Seigneur Jésus-Christ, la reconnaissance de la vacance du siège apostolique est nécessaire. Elle découle de la foi. Et si nous voulons avoir une vie qui est vraiment catholique, il faut rester obéissant à toutes ces lois de l'Église jusque à ce maudit Vatican II qui n'émane pas de l'Église. Pourquoi ? Nous n'en savons rien. C'est le mystère qui est permis par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas un défaut d'assistance de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que l'Église est humaine. C'est comme pour notre vie personnelle. Lorsque nous péchons, c'est pas que notre Seigneur Jésus-Christ nous manque par rapport à sa grâce, nous fait défaut. C'est que nous lui faisons défaut. Et étant donné qu'il y a ce caractère humain dans l'Église, eh bien, il est possible que les hommes d'Église fassent défaut au Saint-Esprit, fassent défaut à notre Seigneur Jésus-Christ, tout simplement. Pourquoi il le permet ? Ben parce qu'il le permet et que nous n'avons pas à tout comprendre. Par contre, ce que nous avons à comprendre, c'est que Jésus est notre roi. Et que c'est pas n'importe quel roi. Que nous ne devons pas, je vous l'avais dit par rapport à la paternité, nous ne devons pas jauger la paternité divine à l'aune de la paternité humaine. C'est la même chose. Nous ne devons pas juger la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, la mesurer à la mesure des royautés humaines, souvent tyranniques, souvent défaillantes. C'est l'inverse. Ce sont les royautés humaines qui devraient se calquer sur la royauté divine. Nous savons ce qu'est la royauté divine. La royauté divine, c'est la royauté de notre Rédempteur qui mène toute chose à sa fin. Nous n'avons pas la vision de Dieu. Nous n'avons que notre petite vision humaine. Mais, si nous avons la foi, nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ nous mènera à notre fin. Si nous adhérons à lui, si nous nous laissons prendre par la main et retirer de ce royaume de ténèbres, si nous nous laissons prendre par la main et que nous lui obéissons, que nous obéissons à son corps mystique qu'est l'Église, nous sommes absolument certains de notre fin. Comment nous allons finir ? Eh bien, nous finirons dans le royaume éternel qui nous est promis, parce qu'il nous l'a dit. C'est ça, en fait, ce que nous dit le pape Pie XI à travers ses paroles, à savoir, il faut croire de foi catholique que le Christ Jésus a été donné aux hommes, donc nous a été donné à nous, non seulement comme Rédempteur en qui nous devons mettre notre confiance, notre foi, mais en même temps comme législateur, comme roi à qui nous devons obéir. Alors, faisons cela et nous sommes sûrs de notre fin, nous sommes sûrs d'être transférés dans ce royaume de lumière, dans le royaume de l'amour éternel de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.